Depuis une vingtaine d'années, il est dans les cartons. Il sera situé à la fois sur un territoire de montagne et sur un territoire composé de coteaux. Je veux parler du futur parc naturel régional Comminges-Barousse-Pyrénées, un projet qui doit voir le jour en 2026. Depuis plusieurs semaines, nous proposons une série d'émissions pour vous le faire connaître. Et depuis le début de cette série d'émissions, je suis en compagnie de Jean-Charles Auria. Bonjour Jean-Charles.
Bonjour Éric Leclerc.
Alors vous nous accompagnez donc depuis quelques semaines. Vous êtes chargé de communication au parc naturel régional Comminges-Barousse-Pyrénées. Comme nous l'avons vu dans les précédentes émissions, ce parc est en grande partie sur les Pyrénées, mais aussi sur les coteaux du Comminges. Ce sont deux territoires différents. Comment, dans ce projet, allez-vous valoriser ces deux territoires ?
Oui, alors c'est tout à fait... C'est la richesse du PNR, de ce PNR, parce que c'est sa diversité qui fait vraiment sa richesse. On a la chance d'avoir un PNR qui aura à la fois les hauts sommets, les grandes Pyrénées du Luchonnais.
Quelques noms ?
Ah ben vous avez toute la couronne des 3000 Luchonnais. Alors ne me demandez pas les noms parce que je vais vous les donner tous et on en a pour 10 minutes. Mais si vous partez depuis l'Hospice de France du Sauvegarde et que vous allez jusqu'au Cuérat et jusqu'au Perdiguer qui est notre point culminant à 3222, une merveille pour les numérologues. Vous allez jusqu'au Ourgade, qui est la frontière avec justement, c'est notre sommet frontière avec les Hautes-Pyrénées. Bref, vous avez toutes les grandes Pyrénées, vous avez tout le pyrénéisme, qui est à la fois donc un patrimoine naturel et un patrimoine culturel, puisqu'on a là la naissance du pyrénéisme qui se fait là. Vous avez les grandes cités, la grande cité de Luchon, par exemple, de montagne, et vous avez les grandes vallées, celle de Haut, celle du Lys, celle de l'Hospice de France. Et les autres, en tout cas, le Larbouste, Ouille, etc. Et je veux dire, là, vous avez un patrimoine exceptionnel. Et c'est dans cette pluralité, et pas forcément dans ce contraste, que ce PNR est assez extraordinaire, parce que évidemment, on est sur trois grandes zones géographiques. On a de la haute montagne, de la très haute montagne. Ensuite, on a du Piémont. Voilà, et on a la chance d'avoir ce Piémont, le Piémont pyrénéen. Et là, vous avez tout ce qui est, disons, l'Aspétois, Arbas, etc. Vous avez ce Piémont qui est très riche, culturellement, géographiquement, qui est différent. Et puis, vous avez le bassin de la Garonne. Vous avez le bassin de la Garonne. On a cette colonne vertébrale qui traverse tout le PNR, qui nous vient de nos voisins espagnols, là, qui déboule à Saint-Béat, puis qui prend un gros virage à Sierpe et qui file comme ça, et qui sort à Saint-Martory d'ailleurs, qui sort là-haut, enfin par la partie du parc qui est encore la nôtre, à Saint-Martory. Et vous avez donc en plus une plaine alluviale qui est assez extraordinaire. Et puis vous avez effectivement ce qu'on appelle le paysage de coteaux, qui est un paysage qui sera sûrement, je l'espère, un jour protégé, en tout cas, labellisé en tant que tel, du bas Comminges et des coteaux du Comminges-Jois. Et donc, c'est en ça que le PNR est intéressant à construire aussi, c'est que c'était une zone qui est très variée et à nous de lui donner comme ça une cohérence qu'elle a déjà, que ce territoire a déjà. C'est tout ce qui le lie déjà, dans la gastronomie, dans les habitudes, dans son quotidien. Et puis on dit que celui qui est Comminges-Jois, c'est un peu celui qui peut de chez lui voir la montagne. Voilà, et bon, et bien, il y en a qui l'ont, il faut qu'ils lèvent les yeux parce qu'ils sont juste en bas et c'est okay. Un mur. Et d'autres qui le regardent comme ça au loin tout
depuis
en
depuis les coteaux vers l'Île d'Odon, Boulogne, et on les voit au loin.
Exactement.
Alors, un panorama assez large.
Voilà, toute la route des Crêtes ou ce qu'on appelle du côté, vous allez vers Cardeillac, vous allez vers Blagent et vous regardez au sud et vous avez...
On voit même les Pyrénées béarnaises jusqu'aux Pyrénées ariégeoises.
Ah, mais là, on voit beaucoup les Pyrénées ariégeoises. Hein, vous avez on voit du Valier jusqu'au pic du Midi.
Même peut-être un peu
Montaigu,
plus.
Oui, même on voit le Montaigu, on voit, mais voilà. Et donc, et on voit toutes les grandes Pyrénées, toutes les hautes Pyrénées, on voit même la Maladette. Hein. Enfin, faut imaginer que ce PNR, on voit de ces coteaux-là, cette frontière-là du PNR, et de tous les côtés, on aperçoit ce PNR et toutes les spécificités du PNR. Donc, géographiquement, c'est un ensemble qui est divers. Et je passe d'autres systèmes écologique, enfin d'autres systèmes géographiques, il n'y a pas que ça, mais voilà, c'est vrai que c'est, on a la chance d'avoir trois grandes comme ça familles et qui sont
Territoire.
la haute montagne, le Piémont, disons, et les collines et les coteaux communs joints.
Alors, la liste serait longue à adresser des sites présents sur le territoire du futur parc. Je vous propose de nous donner quelques noms en dehors des sommets que vous venez de nous donner. Commençons du côté de la montagne. On parlait l'autre jour de l'Hospice de France.
Oui, alors qu'est-ce qu'on a? On a tout un tas de choses. Alors c'est vrai que les sommets, bon, tout le monde connaît cette crête là. Je vais pas continuer la citation des sommets, mais c'est vrai que on a au-delà des hautes montagnes, on a ces petites ou ces grandes vallées encaissées et qui sont voilà l'Hospice de France, le Val d'Astaud, la vallée du Lys, Super Bagnères. Donc là. On a une histoire qui est incroyable, puisqu'on a, on a tout là. On a les pionniers de. Enfin, on a la Retirada, on a les chemins de la liberté, on a les contrebandiers qui passaient par l'Hospice de France, on a le port de Vénasque. On a le port de Vénasque. De là où on peut apprécier aussi bien comme ça la Maladette. Et ainsi de suite. Vous faites 10 km et vous trouvez comme ça une pépite. Vous arrivez à Super Bagnères et vous avez le Grand Hôtel. Vous avez la plus vieille station de ski des Pyrénées. La deuxième de France, je crois que Chamonix, on n'a que Chamonix devant et de peu. Et voilà. Et puis que dire d'arriver à Luchon et voilà, de rentrer dans cette ville. Et là, vous êtes saisi par une histoire qui commence il y a plus de 2000 ans, puisque c'est les Romains qui se sont d'abord installés là, ont mis leur bain, et puis etc., etc., et d'Étigny, le baron d'Étigny, et la construction et la magnificence de cette ville quand elle était une ville classique de l'histoire thermale des Pyrénées.
Restons dans les Pyrénées, enfin, côté montagne, côté Barousse,
Eh oui.
des sites à.
Ben,
Ouais.
c'est oui, voilà, c'est on pourrait continuer comme ça. Il va falloir remettre de la cassette là ou du rallonger le disque dur parce que
Quelques noms, on ne va pas
c'est
tous les citer, on aura
non-stop.
l'occasion
Oui,
dans les semaines qui
oui.
viennent hein, d'y revenir, mais pour donner une idée aux gens de la richesse de ce
Oui.
territoire. Ouais.
Ben, en Barousse, il y a des choses extraordinaires. C'est quand vous allez bon le port de Balès. On est au port de Balès et puis comme ça on descend, vous avez tous ces pâturages, vous avez le Mont-Né, vous avez tous ces gens qui viennent à porter leurs animaux en transhumance. Et puis vous avez toute la ribambelle des villages, des villages moyenâgeux, de Bramevac avec le premier château des comtes de Comminges. Vous allez à Mauléon-Barousse, vous avez un patrimoine historique extraordinaire. Et puis vous avez des endroits singuliers, le gouffre de la Soule par exemple, qui est à la sortie de Mauléon-Barousse. Oui, en tout cas sur une petite route comme ça, tout d'un coup.
Vers Bramevac aussi, pendant ce
Oui,
coin-là.
c'est ça. Et enfin, donc, enfin. Et là, vous avez des choses extraordinaires. Et puis, quand vous débouchez sur la vallée, vous arrivez à Saint-Bertrand-de-Comminges. C'est pas rien, Saint-Bertrand-de-Comminges. C'est un peu. Je veux pas prendre Saint-Michel comme
Certains disent
exemple.
ce Mont Saint-Michel
Mais
des
c'est le
Terres.
Mont-Saint-Michel du Comminges. Tout le monde nous l'envie. Donc, on a la chance d'avoir ça. Et le travail du PNR, ça va être juste de rajouter un dénominateur au exponentiel, c'est-à-dire que c'est voilà de le faire connaître et d'essayer de trouver des façons qu'on vive mieux sur ce territoire avec ce genre de pépites, qu'on vive à la juste valeur du territoire. On a des choses formidables et des fois on pêche un peu par manque de développement ou par bon il y a des choses à revoir, il y a des choses à faire. Donc ces beautés-là paysagères et patrimoniales qui pour nous, vont ensemble. C'est la même chose. C'est l'exemple du pyrénéisme dans les Pyrénées. C'est les montagnes qui ont créé la culture de la montagne. Donc, c'est les beautés paysagères qui font que vous avez des poètes inspirés qui viennent écrire les plus belles plages de la montagne chez nous. Des géographes qui font la même chose dans leur art à eux. Donc c'est ça aussi, et tout est une question. Par exemple, le Saint-Bertrand de Comminges s'insère dans le paysage de façon extraordinaire. Vous avez ce piton rocheux et vous avez cette basilique comme ça fortifiée. Bon, c'est voilà, les deux choses, vont de pair. Et le territoire, ce n'est que ça. J'ai peut-être pas rendu assez hommage à la barousse. La barousse, c'est l'ours, c'est la pêche à la truite, c'est des petits villages
C'est le fromage aussi.
isolés. Et merci, j'y venais. C'est Sost et les autres villages. Mais c'est vrai que quand on pense au fromage, on pense à Sost. Et c'est extraordinaire. Et c'est typiquement, là, c'est vraiment un exercice PNR qui est de dire, là, on a un potentiel extraordinaire. Qui est, et je vais fâcher personne en disant sous-employé, on avait beaucoup plus de fromagers avant, bon, comme partout, mais là on a quand même une industrie, une petite industrie artisanale qui pourrait être beaucoup plus que ce qu'elle est. Et que vous avez des PNR qui ont chez eux Roquefort, Comté, oui, et c'est, eh bien nous, on peut faire pareil. Il n'y a pas de raison que la tome de Barousse, qui est excellente, ne soit pas aussi connue, reconnue. Et ne fasse pas vivre aussi bien ses producteurs que celle du maroilles, que celle de gruyère ou que celle de camembert. Donc, c'est ça aussi. Ce qui est excitant de la création d'un PNR, c'est se dire, là maintenant, on a entre nos mains un outil, parce qu'on se l'est gagné cet outil, ça ne se construit pas en une après-midi. Donc, une fois que tout est bien bordé, que tout est bien calé, que tout est bien décidé, que tout peut être fait grâce à cet outil, on a un levier extraordinaire pour faire ce qu'il faut faire sur ce territoire, par exemple sur le fromage de Barousse. Voilà, à nous de faire avec les éleveurs et les producteurs.
Avant de descendre sur les coteaux, un mot sur l'aspect toit.
Oh bah l'aspétois, c'est le coup de cœur, parce que l'aspétois, c'est d'abord là où on est.
Il faut
oui,
préciser, hein, c'est le siège
c'est là où on travaille, oui.
du
Oui.
futur parc
Alors,
naturel régional Comminges-Barousse-Pyrénées,
oui.
avec, comme on le disait l'autre jour, des villes-portes plus tard, hein, qui seront là
Oui,
pour
oui.
relayer tout le travail que vous faites.
Oui. L'aspétois, c'est. Voilà, c'est déjà ces aspects qui où sont aujourd'hui où se trouvent nos bureaux, c'est vrai, on est accueilli par la mairie d'Aspet. Où se trouvera la maison du parc un jour, ça on ne sait pas encore, puisque pour l'instant ce sont des locaux provisoires. Nous on aime beaucoup Aspet par exemple. Pourquoi? Parce que Aspet c'est typiquement la ville qui ressemble au parc et la ville qu'on aimerait, enfin c'est ce qui nous ressemble et c'est ce qui ressemble à ce que le parc pourrait devenir, c'est-à-dire en fait en tout cas ce que nous on aimerait faire. On se retrouve bien dans Aspet, c'est un petit grand village. Hein, ça
Entre
dépend.
coteaux et montagne, quoi.
Voilà, c'est au milieu du territoire,
Ça fait la
c'est
liaison entre les
central,
deux.
ouais, c'est central. Et puis il y a des services, il y a des gens sympas, on peut y vivre. Et puis c'est dans le village. Nous, on est dans le village et on voudrait se retrouver sûrement, on le dit souvent, au cœur du village, à hauteur un peu comme ça de discussion avec les gens et que la maison du parc se retrouve dans un village à taille humaine et dans les proportions d'aspect. Voilà, parce que c'est un village qui a un très beau marché tous les samedis, qui a une vie et qui est amené à grandir, mais qui ressemble à ce que le PNR va devenir. Je pense, je considère que c'est, on considère que c'est un peu comme ça. Voilà. Mais et puis aspect, bon, aspect, il y a tout un tas de, il y a tout l'aspect toit, c'est beaucoup de choses, c'est l'aspect léojogie, par exemple, c'est pas rien, quoi. On a là des gens qui ne jurent que par ce coin-là. Où on vient faire de la spéléo du monde entier, quoi. Et puis notre voisin Arbas, c'est le deltaplane, c'est le parapente et le deltaplane sûrement aussi. On en voit moins, je trouve. Mais bon, c'est beaucoup le entre autres choses. Mais c'est vrai qu'on connaît beaucoup le Palomer et le Piémont là-bas. Il est connu pour accueillir des fous de parapente. Et puis c'est le charme, le Piémont, c'est les gens qui vivent là-bas adorent et ceux qui le visitent y reviennent parce que ben, y a un charme particulier quoi. C'est les deux en même temps. Vous avez la montagne et la campagne. Et donc alors c'est moins rude que la montagne, c'est moins quoi, c'est moins plat même si c'est pas notre cas que la campagne, puisque nous c'est les coteaux, mais c'est voilà, on peut y faire de la montagne, on peut y chasser, on peut y pêcher, on peut y être isolé, on peut vivre tranquille, Donc les voilà, il y a des endroits qui sont assez exceptionnels dans ce coin-là.
Et puis il y a les coteaux.
Et
Alors, on
oui.
pense d'abord à Aurignac, hein, si on continue à descendre vers jusqu'à Blajan, on pense
Oui.
à Aurignac, au musée de l'Aurignacien. C'est un peu comme aspect, ce côté convivialité à Aurignac.
Ah oui, ça sûr, certainement. Aurignac, notamment, qui est vraiment. Alors, on continue à sûrement à dire d'Aurignac que c'est un village, mais j'ai l'impression que ça va devenir une ville. Voilà, Aurignac est un. Pas parler de boom non plus, faut pas exagérer,
Il y a
mais.
deux tiers-lieux.
Mais voilà, Aurignac, c'est une zone, c'est un village, c'est un endroit qui est très vivant et qui l'est de plus en plus. Il y a, voilà, il y a de plus en plus. Vous avez cité les deux tiers-lieux
La
qui y
cafetière et la
travaillent
glissade.
et la glissade. Vous avez le restaurant Le Saint-Laurent qui enfin vient de rouvrir après des années de fermeture, qui est une institution locale dans laquelle je ne me suis pas encore rendu et j'irai bientôt dans le cadre de mes chroniques gastronomiques que je fais avec plaisir sur les réseaux sociaux pour justement faire la part belle au circuit court. Aux produits en circuit court de notre territoire et aux entrepreneurs de la restauration, parce qu'on a besoin des entrepreneurs de la restauration et de l'hôtellerie sur notre territoire, ça fait partie de son développement. Et donc, oui, Aurignac, c'est vraiment, c'est un peu là, ça fait plaisir de voir une ville, d'avoir un village comme ça, avec son marché, avec ses foires, hein, et surtout avec ses habitants dynamiques qui justement tiennent ben, les tiers-lieux et autres, mais. Et puis voilà, et puis une municipalité qui doit bien faire son boulot, parce que c'est en tout cas c'est un endroit attractif et on est bien content de l'avoir. Et puis bon, c'est quand même l'épicentre d'une période préhistorique qui est importante. Nous, le parc s'inscrit dans un travail archéologique. On travaille main dans la main avec des archéologues de terrain avec qui on travaille beaucoup, puisque ce parc-là sera archéologique ou ne sera pas, comme on dit. C'est vraiment c'est quelque chose qui fait partie de notre ADN, de par la présence de tous ces sites très forts et constitutifs du territoire. Alors, évidemment, vous avez là-bas, vous avez le Forum Aurignacien, vous avez un musée extraordinaire. On a la chance d'avoir deux musées, enfin
Deux
deux, il y en a
musées
plus que deux, mais en tout cas, je pense
dans ce
à celui qui
secteur.
suit, qui est celui de Montmorin. Parce que quand on est allé à Aurignac et qu'on a la chance de prendre la petite route des Crêtes, qui est comme tous les autres coins du PNR, un des plus beaux coins du PNR, et vous allez comme ça, vous cheminez sous les platanes et vous arrivez jusqu'à Montmorin. Bon, Montmorin, c'est quand même, voilà, c'est la Vénus de Lespug, c'est la
La
villa,
villa,
c'est
Les gorges de la Save à
les deux
côté.
villas, oui. Et vous avez là un ensemble, enfin une villa qui est une des plus grandes d'Europe, qui est dans un état de conservation assez, quand même assez remarquable. Ça reste des ruines, mais vous avez un musée qui s'est monté il y a pas longtemps, qui a ouvert il y a pas longtemps pour mettre en valeur la présence romaine, et puis la présence médiévale, parce qu'on a des châteaux un peu partout à Lespug, et puis les découvertes qui ont été faites, qui sont très importantes, et notamment sûrement une des plus importantes, une des plus connues, qui est la Vénus de Lespug, dans les gorges de la Save. Et pour continuer à illustrer un peu les actions d'un PNR, une des premières choses qu'on a faites, c'était en 2022, en tout cas, que j'ai faite en 2022, à laquelle j'ai participé, je me souviens bien, c'était les 100 ans de la Vénus de Lespug. Donc on était encore à l'état gazeux un peu là, c'était le tout début, parce que 2022 c'est il y a 3 ans, c'était le début de notre communication aussi, d'un moment où on voulait exister auprès du grand public, et on a saisi l'occasion bien entendu, parce qu'un PNR quand il a la chance d'avoir une merveille comme la Vénus de Lespug, il participe aux 100 ans de la Vénus de Lespug. Donc voilà, donc on a travaillé avec la municipalité de Lespug et de Montmorin pour organiser un événement scientifique et culturel et événementiel, artistique, dans les gorges. On a diffusé une projection, une reconstitution 3D de la Vénus dans les gorges avec un musicien, un public, et c'était l'été, et c'était merveilleux, quoi.
Alors, souhaitons que les gorges de la Save puissent réouvrir, hein, puisque pour le moment elles sont interdites au public pour raisons de sécurité.
Ça, je vous le fais pas dire.
Et puis terminons aussi cette émission. Alors, on ne peut pas citer tout le monde, justement, dans ce secteur, dans ce territoire, par la forêt de Cardeillac.
Avec plaisir. Alors là, évidemment, si vous me lancez sur la forêt de Cardeillac, c'est compliqué.
Avec son arboretum.
Voilà, puisque la forêt de Cardeillac, on a la chance aussi, voilà, ça fait partie des pépites, des raisons pour lesquelles le territoire sera parc naturel régional. Parce qu'on a des forêts domaniales, c'est pas la seule, celle de Cardeillac,
oui.
On en a beaucoup.
Verbagnin de Luchon aussi.
On en a énormément. Mmh. 53% du territoire des 170 000 hectares du parc, c'est de la forêt. Et ça devient plus de 70-75% dès qu'on passe la Garonne et qu'on arrive sur le Piémont et les hautes montagnes. L'enjeu forestier, il est énorme, puisqu'on veut, on veut développer et préserver les fonctions de la forêt, économique, sociale et sportive et autres. La forêt, c'est fait pour beaucoup de choses. Et un parc travaille autant avec ceux qui exploitent le bois que ceux qui aiment aller y courir ou préserver telle ou telle espèce. Exactement. Et donc, on a la chance, bien entendu, d'avoir cette immense forêt à Cardeillac et un arboretum. Voilà, on a deux arboretums à ma connaissance, on en a déjà deux, celui de Jouet au-dessus de Luchon, et celui historique de Cardeillac à l'arboretum de Cardeillac. Alors voilà, on a des espèces, et l'ONF il travaille tous les jours, on a des espèces là qui sont préservées. Et puis on a surtout cette forêt qui, je vais dire une bêtise, mais je crois elle fait plus de 140 hectares, et elle est comme ça, traversée par un canal, avec ses deux séquoias sentinelles, et l'automne c'est quelque chose à voir. Je conseille à tout le monde d'aller faire une balade en vélo ou d'aller faire son jogging dans la forêt de Cardeillac. Et d'aller visiter évidemment toute la commune de Cardeillac.
Et puis il y a les circuits de randonnée, là aussi on y reviendra prochainement à travers la forêt de Cardeillac, même à travers le territoire du futur PNR. Jean-Charles Auriat, merci.
Merci Eric.
Je rappelle que vous êtes chargé de communication au parc naturel régional Comminges-Barousse-Pyrénées. À bientôt.
À bientôt.